et au fondamenti de Sainte Liberata, quelqu'un lui dit « Sot que tu es, crois en le pape !» Et lui, il répondit « Vous en avez fait un dieu de votre pape !» Et il ajouta « Ils vous ont bien arrangé, vos papegais !» Ce qui était un jeu de mots où saillit, et se disant les papes devenaient comme des animaux, en dialecte toscan, comme on me l'expliqua. Et tous s'étonnèrent qu'il alla à la mort en faisant de bons mots. À Saint Giovanni, ils lui crièrent « Prends la vie !» Et lui répondit « Déprenez-vous de vos péchés !» Au Mercato Vecchio, ils lui crièrent « Sauve-toi, sauve-toi !» Et lui, il répondit « Sauvez-vous de l'enfer !» Au Mercato Nuovo, ils lui hurlaient « Repens-toi, repens-toi !» Et lui, il répondit « Repentez-vous de votre usure !» Et arrivé à Santa Croce, il vit les frères de son ordre, qui se trouvaient sur les escaliers, et il les réprimanda, parce qu'ils ne suivaient pas la règle de Saint François. Et certains d'entre eux haussaient les épaules, mais d'autres de honte abattaient leurs capuchons sur leur visage. Et sur le chemin de la porte de la Giustizia, beaucoup lui disaient « Nie, nie donc, ne désire pas la mort !» Et lui « Christ est mort pour nous !» Et eux « Mais toi, tu n'es pas Christ, tu ne dois pas mourir pour nous !» Et lui « Mais je veux mourir pour lui !» Auprès de la Giustizia, quelqu'un lui demanda s'il ne pouvait pas faire comme un certain frère, son supérieur, qui avait renié. Mais Michel répondit qu'il n'avait pas à renier. Et j'en vis beaucoup parmi la foule approuver et inciter Michel à être fort. Ainsi, moi et bien d'autres, nous comprîmes que ceux-là étaient des siens, et nous nous écartâmes. On fut enfin hors la porte, et devant nous apparut le bûcher, ou petite hutte, comme on l'appelait là-bas, parce que les bois y étaient disposés en forme de cabane. Et les cavaliers armés firent cercle pour que les gens ne s'approchassent pas trop. Et c'est là qu'on lia frère Michel à la colonne. J'entendis encore quelqu'un lui crier « Mais qu'est-ce que cela? Pourquoi tu veux mourir ?» Et lui, il répondit « Cela est une vérité qui gît en moi, dont on ne peut donner témoignage que par la mort. » Ils mirent le feu, et frère Michel, qui avait déjà entonné le credo, entonna ensuite le Te Deum. Il en chanta peut-être 8 vers, puis il se plia comme s'il devait éternuer et tomba sur les fagots, car ses liens s'étaient brûlés. Il était déjà mort, parce qu'avant que le corps ne brûle complètement, on meurt. La grande chaleur fait éclater le cœur et la fumée noie les poumons. La hutte brûla tout à fait comme une torche, et il y eut une grande lueur. Et n'eût été le pauvre corps carbonisé de Michel qu'encore on entrevoyait au milieu des sarments incandescents, je me serais cru devant le buisson ardent. Et je fus si près d'avoir une vision que, me rappelais-je, en montant les escaliers de la bibliothèque, spontanément étaient montés à mes lèvres certains mots sur le ravissement extatique que j'avais lu dans les livres de Saint Hildegarde. La flamme consiste en une splendide clarté, en une vigueur innée et en une ardeur ignée, mais la splendide clarté, elle la possède pour briller et pour brûler l'ardeur ignée. Je me souvins de quelques phrases d'Hubertin sur l'amour. L'image de Michel se confondit avec celle de Dolcino et celle de Dolcino avec celle de Marguerite la Belle. Je sentis de nouveau cette agitation qui m'avait saisi dans l'église. J'essayais de n'y point penser et poursuivis d'un pas décidé vers le labyrinthe. J'y pénétrais tout seul pour la première fois. Les longues ombres projetées par la lampe sur le dallage me terrorisaient autant que les visions des nuits précédentes. Je tremblais à chaque instant de me trouver devant un autre miroir, car telle est la magie des miroirs, que même si tu sais qu'il s'agit de miroirs, ils ne cessent de t'inquiéter. Je ne cherchais d'ailleurs pas à m'orienter ni à éviter la pièce au parfum qui suscite des visions. J'avançais comme en proie à la fièvre, et point ne savait où voulait aller. De fait, je ne m'éloignais pas beaucoup de l'escalier, car peu après je me retrouvais dans la pièce heptagonale par où j'étais entré. Là, sur une table, étaient disposés des livres que je n'avais pas l'impression d'avoir vus la nuit précédente. Je devinais que c'étaient des ouvrages que Malachi avait retirés du scriptorium et qu'il n'avait pas encore remis chacun à sa place particulière. Je ne comprenais pas si j'étais très loin de la salle des parfums, parce que je me sentais comme étourdi et ce pouvait être à cause de quelques effluves qui arrivaient jusqu'en ce lieu ou des choses que mon imagination avait brassées jusqu'à présent. J'ouvris un volume richement enluminé, qui par le style me semblait provenir des monastères de la dernière Thulée. Je fus frappé, à une page où commençait le Saint-Évangile de l'apôtre Marc, par l'image d'un lion. C'était certainement un lion, même si je n'en avais jamais vu en chair et en os, et l'enlumineur en avait reproduit la forme, s'inspirant peut-être des lions observés en Hibernie, terre de créatures monstrueuses. Et je fus convaincu que cet animal, comme le dit d'ailleurs le physiologue, concentre en soi tous les caractères des choses les plus horribles et majestueuses à la fois. Ainsi cette image évoquait pour moi et l'image de l'ennemi et celle de Christ notre Seigneur. Et je ne savais avec quelle clé symbolique je devais la lire. Je tremblais de la tête aux pieds, pris de crainte, et saisi par le vent coulis qui pénétrait par les rayères des murs. Le lion que je vis avait une gueule hérissée de dents et une tête finement loriquée comme celle des serpents, le corps gigantesque, qui se tenait sur quatre pattes aux griffes acérées et féroces. Il ressemblait dans sa toison à l'un de ces tapis que je vis plus tard apportés de l'Orient, à écailles rouges et smaragdines, où se dessinaient jaunes comme la peste d'horribles et robustes entablements d'eau. Jaune était aussi la queue, qui se tordait depuis le derrière jusqu'au sommet de la tête, terminée par une dernière volute de toupet blanc et noir. J'étais déjà fort impressionné par le lion, et plus d'une fois j'avais fait volte-face, comme si je m'attendais à voir apparaître soudain un animal de même nature, quand je décidai de regarder d'autres feuillets. Et je tombai, au début de l'évangile de Matthieu, sur l'image d'un homme. Je ne sais pourquoi, il m'effraya davantage que le lion. Le visage était d'un homme, mais cet homme était cuirassé dans une sorte de chasuble rigide qui le recouvrait jusqu'aux pieds. Et cette chasuble, ou cataphracte, était incrustée de pierres rouges et jaunes. Cette tête qui surgissait énigmatique d'un château de rubis et de topazes se présenta à moi, la terreur me rendait blasphémateur, comme l'assassin mystérieux dont nous suivons les impalpables traces. Et puis je compris pourquoi je rapprochais aussi étroitement la bête et le cataphracte du labyrinthe. Parce que l'une et l'autre, comme toutes les figures de ce livre, émergeaient d'un tissu illustré de labyrinthes entrelacés, où des lignes d'onyx et d'émeraude, de fils de chrysoprase, des rubans d'aigmarine semblaient tous faire allusion à la pelote de salle et de couloir dans laquelle je me trouvais enroulé. Mon œil se perdait sur la page dans des sentiers resplendissants comme mes pieds perdaient leur chemin dans la théorie inquiétante des salles de la bibliothèque. Et voir représenter dans ces parchemins mon errance me remplit d'inquiétude et me convainquit que chacun de ces livres racontait par de mystérieux ricanements mon histoire présente. « Dete fabula narratur », me dis-je, et je me demandais si ces pages ne contenaient pas déjà l'histoire des instants futurs qui m'attendaient.